Bien, on reprend nos places. Voilà, Jean-Marie est en train de s'équiper. Alors, Jean-Marie Hulot est un homme extraordinaire parce que... Alors, c'est d'abord un mathématicien fondamentaliste. Il a fait des études de mathématiques. Et voilà, c'est un scientifique mathématicien. Et puis, il vous le racontera peut-être, mais enfin, il a eu l'occasion d'être en contact avec un des premiers Macintosh. Alors, moi-même, j'étais aux États-Unis en 85-86 et j'ai acheté un des premiers Macintosh. Et quand je l'ai ramené à mon laboratoire, je suis bordelais, j'étais dans un laboratoire à Bordeaux. Donc en 87, je suis revenu des États-Unis avec un Macintosh. Ce n'était pas encore commercialisé en France, ça venait juste de l'être. Et le service informatique m'a ri au nez. Ils m'ont dit, mais attends, c'est pas un ordinateur que tu as, c'est un jouet. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que. Et alors, en plus, avec l'histoire de menu déroulant et tout, si on ne tape pas des lignes de code, c'est pas sérieux. Bon. Donc, Jean-Marie a été en contact avec un Macintosh par hasard et s'est mis à développer ce qu'on appelle des interfaces utilisateurs, donc ce dont je vous ai parlé. Et ensuite, il a eu un certain nombre d'étapes. Il a d'abord créé une interface qu'il a vendue. Ensuite, il a été en contact avec Steve Jobs. Il a travaillé avec Steve Jobs à Next sur le développement de l'interface utilisateur de Next. Donc ça, je pense qu'il nous en parlera. Il a été aussi, il est connu pour ça, alors après, l'histoire, chacun la raconte comme il veut, mais enfin, à la base de l'idée de l'iPhone, en tout cas du développement de l'interface avec l'iPhone, et il a accompagné en quelque sorte Steve Jobs pendant un certain nombre d'années. Alors je dirais que ce n'est pas tellement étonnant qu'on retrouve des Français, comme vous le savez, dans ce monde-là. La France a une capacité de former des gens de haut niveau en sciences informatique, en sciences en général et en sciences informatiques en particulier, qui est reconnue dans le monde entier. Hein, les ingénieurs français sont très reconnus d'un point de vue assez fondamental sur le développement et pratique, sur le développement du monde de l'informatique. Donc voilà, on a la chance d'avoir Jean-Marie avec nous aujourd'hui. C'est a été un des acteurs au premier plan de toute cette histoire, en tout cas de la deuxième partie de l'histoire à partir de Next et du retour de Steve Jobs dans Apple. Je vais lui laisser la parole et puis voilà. Et après, nous aurons le temps aussi de prendre des questions et de discuter. Jean-Marie, c'est à toi.
D'accord. Merci beaucoup, Didier. Et merci de m'avoir invité ici. Donc il y a quelque temps, donc Didier est venu m'inviter pour parler d'innovation en fait dans le monde digital, etc. Donc j'ai mis un titre qui fait bien sérieux et tout. Et puis maintenant, on va pouvoir partir dans une présentation, si vous voulez, sur essentiellement c'est basé sur des choses que moi j'ai vécues par rapport à essayer de faire un historique ou quelque chose comme ça. Et parce que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. En fait, j'ai eu la chance de côtoyer des gens extraordinaires, dont peut-être les plus grands innovateurs en fait des dernières décades. Bien sûr, Steve Jobs, avec qui finalement j'ai passé la plupart de mon temps de travail. Mais ça va au-delà du travail parce que je me suis toujours amusé en travaillant. Mais aussi beaucoup d'autres, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer Tim Berners-Lee, le web a quand même été développé sur la machine Next à l'époque, donc c'était quelque chose où j'ai vu les choses se mettre en place. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des gens comme Jimmy Wales, qui a fait Wikipédia, que personnellement je considère comme une des innovations les plus marquantes de notre époque. Et tout ça m'a amené... j'ai été innovateur moi-même à mon niveau, je dirais, et donc c'est quelque chose que je connais bien. Et quand Didier m'a parlé de ça, je me suis dit c'est l'occasion en fait de me poser des questions sur vraiment qu'est-ce que c'est que l'innovation, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe exactement. Et avant de me lancer là-dedans, donc je vais donner une dernière fois pour aujourd'hui la parole à Steve, qui était quand même le grand innovateur. Et donc, pour vous replacer un petit peu le contexte, c'est toujours à Steve est toujours associé cet aspect de rockstar, de choses spectaculaires et tout, mais qui sont une clé dans tout son mécanisme d'innovation, comme on le verra après. Et là, c'est peut-être le summum de tout, en fait, c'est quand il est revenu chez Apple, donc après Next, où on avait fait essentiellement tout ce qui est devenu, après Mac OS X et l'operating system de l'iPhone et tout ce genre de trucs. Et il revient, Apple est racheté par... Non, Next est racheté par Apple. Steve Jobs revient chez Apple et trouve ce qu'il considère comme un désert. En fait, il n'y a plus rien d'intéressant là-dedans, c'était clair. Il n'y avait plus que la marque qui était intéressante. C'est longtemps qu'il me disait « je veux racheter Apple parce que j'ai besoin de la marque ». Et bon, il y est arrivé, mais bon, par des chemins un petit peu détournés. Et en fait, il revient là, il n'y a rien, mais simplement, il faut faire quelque chose. Et il sait qu'il n'y aura rien pendant plusieurs années, parce que passer de l'Apple, je ne sais pas combien, enfin des operating systems anciens au nouveau, enfin, arriver à mettre ce qu'il y avait chez Next là-dedans, ça va prendre du temps, il va falloir faire une nouvelle machine, il va falloir faire plein de trucs. Mais simplement, il fallait absolument qu'il communique. Essentiellement, il fallait qu'il arrive à dire au monde « Je suis de retour, I am back ». Mais bon, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on peut faire les choses, ce serait peut-être un petit peu exagéré. Et donc, il est parti dans l'idée, bon, il faut que je fasse quelque chose qui dise « je suis de retour ». Les gens disaient, bon, ben, on pourrait faire « Apple est de retour », mais il dit, mais pas du tout, Apple n'est pas de retour puisqu'il n'y a encore rien. Donc à ce moment-là, il a dû prendre énormément de recul, en fait, c'est un peu la capacité des innovateurs. Et il s'est dit, bon, ben, je vais juste montrer qui... Enfin, cette classe de gens dont je considère que je fais partie, ceux qui veulent changer le monde, ben, je vais dire, voilà, c'est pour ces gens-là qu'on travaille. Et ça a donné cette publicité extraordinaire qui s'appelait « Think Different », « Penser différent », et qui...
Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Et donc la traduction approximative ici de ce qui était dit. Mais ce qui est extraordinaire, ça va encore plus loin que 1984, parce que là, non seulement il n'y a pas de produit dans la publicité, mais il n'y a même pas de produit chez Apple. Il n'y a rien à vendre. Donc c'est juste de la publicité de marque et de dire, voilà qui on est. En gros, faites-moi confiance, c'est là où on va, et je sais que je vais y arriver. Je fais partie de ces gens-là. Et c'était quelque chose, ça, qui a été extraordinaire, parce que la publicité de 1984 qui est restée dans les annales, celle-là n'a été montrée que deux fois à la télévision. Hein. Elle n'est jamais sortie autrement. Celle-là a été dispatchée dans le monde entier. Ça a été le plus grand succès publicitaire jamais vu, et avec rien à vendre par derrière. Ça, c'est quand même assez fort. Là, il faut dire, il a fait, et ça a instantanément restauré l'image en fait d'Apple aux yeux du grand public. Apple, ben, il est de retour. Il est de retour. Apple est de retour. On va voir ce qui va venir. Donc, comme je disais, il fallait parler d'innovation. Donc, je me suis dit, je vais aller voir dans Wikipédia. Moi, je suis comme les enfants. Hein, je cherche innovation, et puis le moteur de recherche m'emmène directement sur Wikipédia. Et essentiellement, bon, l'article est très mal fait, d'ailleurs, mais c'est indiqué en haut, et ça, c'est Wikipédia, disant, oh là là, il y a des choses qu'il faudrait refaire là-dedans, etc. Mais essentiellement, on peut en tirer quelque chose comme ça, qui dit, essentiellement, moi, ce que je retiens, c'est dans les innovations, innovation, il y a du neuf, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est plus que nouveau, il y a une vraie rupture, en fait, qui arrive. Le premier terme, en fait, que je retiendrai, c'est, pour une innovation, il faut une rupture. La deuxième chose que je vois, c'est, il faut un grand nombre d'individus, d'accord ? Si on n'arrive pas à atteindre le grand nombre d'individus avec ce qui n'est peut-être qu'une découverte ou une invention, finalement, il n'y aura pas d'innovation, parce que ça va se perdre dans les cartons, et résultat, ça ne marchera pas. Et donc, c'est un deuxième truc qu'il faut dans la recette. Et le truc assez intéressant à la fin, c'est ça arrive le plus souvent de façon inattendue ou inconsciente. Alors ça, c'est amusant. Mais en un sens, c'est un petit peu normal, parce que quand vous faites quelque chose, enfin, quand on voit Steve, on se dit, bon, lui, il sait que ça va créer une révolution. Enfin, il fait tout ce qu'il faut pour, mais la plupart du temps, vous ne le savez pas. La plupart des exemples d'innovation où ça touche un grand nombre d'individus, essentiellement, vous ne vous y attendez pas. Vous êtes pris par surprise. Et puis l'autre chose, c'est que la surprise... pour vous-même, quand vraiment vous voyez quelque chose qui est complètement nouveau, c'est vraiment de la surprise, parce que de toute façon, et ça c'est un truc fondamental, le nouveau n'est pas fait à partir de l'ancien. D'accord ? Le nouveau, c'est vraiment complètement nouveau. Sans ça, il n'y aura pas de rupture. Et souvent, dans la science, c'est plutôt des couches qui se mettent les unes par-dessus les autres. Et là, vous construisez sur le connu. À un moment, il y a une rupture, ce qui va amener quelque chose là de vraiment totalement nouveau. Et c'est là qu'est l'innovation. C'est quand il y a quelque chose de vraiment nouveau. Et ça vient jamais du connu. Si vous restez dans le connu, votre cerveau, il continue à marcher toujours pareil. Il continue à utiliser toujours les mêmes circuits. Et plus vous allez travailler, moins ça va marcher. Moins vous trouverez du nouveau. Donc pour trouver du nouveau, d'abord, il ne faut pas vouloir trouver du nouveau. C'est comme essayer, si vous essayez de tomber amoureux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. D'accord. Ça vous tombe dessus. C'est ça. Donc, puisqu'on parle de Wikipédia, je dirais, avant, et Didier en fait n'a pas beaucoup parlé de l'aspect software, de l'aspect Internet, je dirais, Wikipédia, pour moi, mon réflexe, en fait, a été celui qu'ont tous les enfants aujourd'hui et qu'a tout le monde, et ce n'est même pas un réflexe, de toute façon, c'est les moteurs de recherche, de toute façon, vous amènent là. Mais Wikipédia, ça a été quelque chose de fabuleux, ça a été une innovation fabuleuse. Et la façon dont ça s'est passé, en fait, ça n'a pas, c'était pas quelque chose qui était vraiment voulu, hein, parce que Jimmy Wales, en fait, à l'époque, c'était la floraison Internet dans tous les sens, et comme tout le monde, il cherchait à faire un site web où il allait faire plein d'argent. C'est normal, c'était l'époque. Il y a des opportunités fabuleuses. Et puis, en fait, ce qu'il faisait à l'origine, la société qu'il avait créée, c'était pour faire un moteur de recherche à destination pour les hommes. Il s'agissait de trouver des images érotiques. Parce qu'avec ça, de la publicité à côté, ça pouvait faire gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas marché du tout. Mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Honnêtement, lui, c'était quelqu'un qui était très intéressé à l'aspect encyclopédique, donc il a voulu créer une encyclopédie. En parallèle, c'était un projet un petit peu parallèle, ça s'appelait Nupédia. Simplement, il n'avait pas encore été touché par la grâce, ou je ne sais pas quoi, et là, essentiellement, donc, lui avait cherché à développer quelque chose, une encyclopédie qui serait lue sur Internet, mais à l'origine, qui était basée sur une façon classique de faire une encyclopédie, c'est-à-dire avec des gens qui allaient, connus, identifiés, qui allaient écrire les articles, qui allaient les reviewer, etc. Et puis, essentiellement, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu 24 articles, parce que de toute façon, c'est tellement compliqué d'arriver à avoir des gens qui écrivent les articles et puis qui se mettent d'accord et tout. Ça n'a pas marché. Et simplement, l'ingénieur avec lequel il travaillait, dont j'ai oublié le nom juste maintenant, en fait, lui a montré un jour les systèmes de wiki, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'édition, en fait, de documents de matière collaborative. Et là, tout d'un coup, il y a eu un déclic fondamental. Il s'est dit, puisqu'on n'arrive pas à trouver les gens pour écrire les articles, quand il faut les faire reviewer, c'est une catastrophe et ils n'arrêtent pas de se battre entre eux, ça ne finit jamais, on va l'ouvrir globalement, d'accord ? On va faire ce truc, on va dire, allez-y les gars, faites une encyclopédie. Et on va vous donner un wiki dans lequel, avec quelques règles élémentaires, vous allez pouvoir construire les différents trucs. Et en même temps, il a eu cette idée extraordinaire pour la suite, c'est un libertarien, comme on dit aussi, et il s'est dit, de toute façon, ce truc, on va le faire complètement gratuit. À l'origine, personne n'était payé pour faire ce machin-là. On va obliger, en fait, tout ce qui est fait là-dedans d'avoir une licence, à l'époque, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais qui correspond à ce qui est des licences Creative Commons maintenant, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir les utiliser, c'est un truc complètement ouvert. Et ça a été fondamental pour la suite, parce qu'aujourd'hui, Wikipédia est une base de connaissances, en dehors de l'aspect grand public, est une base de connaissances absolument fondamentale, qui permet à tous les informaticiens, et dans toutes les boîtes même commerciales, etc., de faire des études absolument fantastiques. C'est le plus gros réseau sémantique qui puisse exister, sur lequel on peut s'appuyer pour faire des analyses, pour travailler sur les moteurs de recherche et ce genre de choses. Et donc, il a lancé ce truc-là, c'est ça qui est intéressant vis-à-vis de... Quand on parle de Steve Jobs, c'est presque déjà du passé, en quelque sorte. Steve Jobs, pour que ça marche, pour qu'il ait le grand nombre, il avait besoin de rajouter la publicité et tout ce domaine. Avec l'Internet, et Wikipédia est un exemple, là, il y a cette composante, en fait, il n'y en a plus besoin. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça a été du développement purement organique, comme on dit. C'est-à-dire que ça s'est passé tout seul. Et progressivement, pof, via l'Internet, ça s'est complètement développé et ça a pris des dimensions fabuleuses. Donc, il a eu droit à l'innovation, dans le sens où, oui, il y a aussi le grand nombre d'individus. Donc, ça y est, ça a pris, la sauce a pris, c'est une révolution. C'était quelque chose... d'extraordinaire. Et ça, c'est de la pensée a posteriori, c'est pour ça qu'il voulait faire au départ, mais il s'est aperçu, on est en train de faire le truc qui devient, en fait, la planète maintenant a accès à la somme de toutes les connaissances humaines. Et aujourd'hui, c'est vrai, tout est là-dedans. Vous pouvez dire, c'est bien, c'est pas bien, les articles sont pas bons, mais immédiatement sont mis en place à l'intérieur aussi des mécanismes de régulation. Ce n'était pas juste les gens qui écrivaient, mais il fallait absolument des mécanismes de régulation. Rappelez-vous, avec une encyclopédie, l'autre problème, c'était les reviews. Comment est-ce que ça peut marcher et assurer les choses? Et ça, c'est quelque chose aussi qui s'est développé de manière organique. Un ensemble de personnes qui se chargeaient aussi de dire « Non, ça ne va pas, ça va... » Enfin, et, si vous voulez, ça s'est équilibré. Et après, je veux bien entendre toutes les mauvaises pensées par rapport à Wikipédia, mais moi, je dis, de facto, de toute façon, en plus, le jour où les moteurs de recherche sont arrivés, et on fait que dans Wikipédia, que tout, chaque fois que vous cherchez un mot générique, en fait, Wikipédia vient en tête, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le choix. De facto, c'est ça qui sera l'encyclopédie de l'humanité. Et donc, vous pouvez dire, bon, c'est pas bien, je me cache, je peux vous dire, j'y participe. Donc, à faire. Si j'ai quelque chose à dire, j'y participe, et à partir de ce moment-là, j'ajoute à la base de connaissances de l'humanité. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment très fort. Bon, c'était sur le côté pour le moment, puisque c'était juste, j'avais utilisé Wikipédia, et donc c'était quelque chose d'intéressant à noter. Maintenant, si on en revient à Steve Jobs lui-même, il faut voir que lui n'était pas un personnage classique, je dirais, comme Jimmy Wales, c'est plus un personnage classique. À l'origine, c'est sans doute plus un personnage classique. Et pour ce qui est de Steve, si on recule, en fait, au moment où tout ça s'est fait, c'était dans les années 70, on est en train de parler d'un gars qui ramassait des pommes, comme tu disais, pour vivre, ou des cannes de Coca-Cola, il ne faut pas oublier ça, à l'université, pour aller les revendre, etc. Il était à Reed College aux États-Unis, et donc essentiellement, ça a duré 6 mois, non, je ne sais plus combien de temps il est resté, et puis il est parti, ça ne lui correspondait pas, à part la calligraphie, qui a après beaucoup servi du côté du Mac. Mais donc il est parti, en fait, il est parti aux Indes. D'accord, ça se faisait beaucoup à l'époque, on partait aux Indes, c'était fantastique en fait, c'était une époque extraordinaire. Et donc là, il est parti retrouver un gourou en Inde qui voulait voir, qui était quelque part perdu dans l'Himachal Pradesh. Et donc ce qui lui a permis de partir, donc d'aller marcher dans l'Himalaya, il n'a pas pu rencontrer son gourou, quand il est arrivé, il était mort. Et donc malheureusement, il n'a pas pu, ou heureusement peut-être, il n'a pas pu voir ce gourou, et donc il est retourné aux États-Unis. Et il nous a fait, après, tout ce que vous avez pu venir voir. Alors, tout ce que vous avez pu voir dans la présentation précédente et que vous verrez après, mais si vous voyez son truc de toujours, et ça en fait, c'est repris de Actuel, un magazine des années 70, de l'Underground, où on l'interroge, et essentiellement, il dit, voilà, en fait, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est changer le monde. Et j'ai voulu aussi être un artiste. Essentiellement, quoi que je fasse, ça se résume toujours à comment est-ce que je change le monde au mieux. Alors, on peut se dire comment on change le monde en marchant dans l'Himalaya, mais je crois que là, il y a quelque chose quand même à retenir. C'est que quand vous marchez dans l'Himalaya, et particulièrement sur ces grandes altitudes, etc., où l'air est si pur, l'espace est si grand, si en plus des nuages, c'est extraordinaire. Donc là, vous pouvez voir l'espace. À partir de ce moment-là, votre cerveau, essentiellement, il commence à se vider. Vous commencez à prendre énormément de recul. Et à partir du moment où quelque chose se passe comme ça, tout est possible. Et vous pouvez voir quand, pour l'invention, enfin la découverte de la gravité, ça s'est passé parce qu'il y a une pomme qui est tombée sur la tête ou quelque chose comme ça, parce que le gars, il l'avait tellement cherché, il était arrivé au point où son cerveau s'était arrêté. Quand il a reçu une pomme sur la tête, pof, là, c'était le déclenchement de l'innovation. L'innovation se passe à partir du moment où vous faites fi du passé, vous vous écartez du connu, et à ce moment-là, quelque chose peut arriver. Ça n'arrive pas forcément, mais ça peut arriver. Vis-à-vis de ces histoires de gourous, Steve n'était pas du tout avec des gourous indiens, il était plutôt zen, en fait, c'était très zen. Et donc là, c'est la même chose, c'est ces histoires de koan zen, là, vous savez, on vous raconte des tout petits trucs en une phrase qui sont complètement incompréhensibles, des paradoxes terribles. Et puis si vous essayez de le résoudre, à un moment, ça va éclater dans votre tête, et à ce moment-là, pof, ok, il y a du vide qui se forme, dans le vide, du nouveau peut arriver. Et chez Apple, c'est pareil, pour pouvoir faire du nouveau, il avait des tas de gens vachement brillants qui étaient capables d'empiler sur du connu, de faire de la découverte et de faire des choses comme ça. Mais pour pouvoir prendre suffisamment de recul et arriver à dire, okay, à voir, ok, c'est là que se passe l'innovation, et puis après de rassembler toutes les énergies pour le faire, c'est là où il était fort. Et en fait, si vous regardez l'histoire de l'iPhone, enfin, c'est quelque chose dont on parle, enfin, dont je l'avais parlé depuis un certain temps, donc on mettait des tas de choses en place. Mais le jour où il a décidé de faire l'iPhone, c'est le jour où il a réalisé, donc il y avait faire un téléphone, c'était bien faire un téléphone, mais un téléphone, qu'est-ce que c'était un téléphone? Et pour tout le monde, un téléphone, il y avait un écran, un clavier. Un écran, un clavier, un écran, un clavier. Vous ne pouviez pas penser à un téléphone sans penser qu'il y a à la fois un écran et un clavier. Et puis, c'est pas beau, d'ailleurs. C'est pas beau de voir un clavier. Et puis, l'écran ne pouvait pas être assez grand. Et donc, il est resté en arrêt pendant pas mal de temps, je pense, pendant plusieurs années, avant de prendre une décision. Puis un jour, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, le truc, c'est qu'on va enlever le clavier. D'accord? Et maintenant, on va le faire. Tu avais raison depuis le départ. Donc, on va faire ce téléphone. Il n'aura pas de clavier. Et il a dit ça, en fait, et il a commencé à le dire après à tout Apple. Mais c'était un drame, c'était une catastrophe. C'est les gens, comme d'habitude, disaient, mais il est devenu complètement fou. Un téléphone sans clavier, mais ça ne marchera jamais, 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 jamais. Et bien, vous voyez le résultat après. Pour arriver à faire un truc comme ça, c'est-à-dire arriver à sortir de vos circuits mentaux qui vous imposent de voir un téléphone comme un outil avec un écran et un clavier, et à dire, OK, on passe, on enlève le clavier, et voilà ce que ça doit être. Pour ça, il faut prendre vachement de recul. Et c'est en ce sens-là qu'avoir ce type de culture, en fait, lui a permis sans doute de devenir cet innovateur à répétition, ce qui est rare. C'est très rare d'avoir des innovateurs à répétition. Souvent, les innovateurs vont trouver un truc, et puis après, ils vont construire leur nouvelle créole, leur nouveau circuit mentaux à partir de ce qu'ils ont inventé de nouveau, et puis ils vont rester figés, ils vont l'améliorer et tout, mais ils n'arriveront pas à inventer de nouveau, ce qui n'était pas son cas. Alors, de mon côté, j'étais aussi dans les années 70, un peu dans les mêmes idées. C'était très coloré comme monde. Ma voiture ressemblait un peu à ça. Un peu moins bien, les dessins étaient un peu moins beaux, mais enfin, vous voyez, on s'amusait bien. Bon, d'un autre côté, moi, je n'étais pas comme lui, j'étais quelqu'un de sérieux. Donc, j'étais à l'université, j'étais à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, je faisais des mathématiques et tout le bazar. Et essentiellement, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Et donc, est arrivée la fin de l'école normale et bon, fallait que je fasse quelque chose. J'avais pas du tout envie de passer l'agrégation, en fait, ça ne m'amusait pas. Donc j'étais passé à la fac pour inscrire ma copine qui, à ce moment-là, était partie en vacances ou je ne sais pas quoi. Donc je l'inscrivais pour l'année suivante et puis j'ai vu sur les affiches autour de moi le DEA d'informatique de Jean et Gérard. Et c'était Gérard essentiellement qui m'avait attiré, parce que c'était justement des choses de preuves formelles, etc. Donc les deux sont ici, hein. Je les remercie. Et je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais essayer ça. Je ne savais pas ce que c'était que l'informatique, mais pas du tout. Je n'avais pas idée de ce que c'était que l'informatique. Et donc, j'ai inscrit ma copine, je suis allé voir Jean, son bureau. Oui. Je ne sais pas pourquoi, il m'a dit oui, alors que vraiment, je ne savais pas ce que j'allais faire. Très bien, donc je fais ce truc-là. Et en fait, bon, tout ça, c'était très intéressant. Tout ce qui se passait avec Gérard et Jean était fabuleux. Mais de temps en temps, on me disait, mais il faut faire des travaux pratiques, il faut faire de l'informatique, quoi. Il faut programmer et tout le bazar. Et on m'envoyait dans des salles avec il paraît qu'il y a des gros ordinateurs derrière, je ne savais pas trop ce que c'était. Des espèces de machines à cartes perforées. Je ne savais même pas utiliser un clavier, c'était terrible. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour le faire pour moi, parce que je me suis dit, attends, si c'est ça l'informatique. Ça ne va pas durer longtemps. Hein, Et ça, c'était en 1977. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Steve a le même âge que moi, à peu près. Et en 1977, le même gars, même âge, enfin, pas le même gars, mais le même âge, en fait, lui, à Palo Alto, qu'est-ce qu'il sortait? Il sortait l'Apple II, tranquillement, pendant que moi, j'étais avec mes cartes perforées, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire puisque Didier l'a déjà fait, mais ça c'était l'innovation, mais c'est fabuleux ce machin. Je ne l'ai pas forcément senti tout de suite. Moi, j'étais plutôt un chercheur, un mathématicien, mais d'un autre côté, je me dis, mais moi, j'étais avec mes cartes perforées. Et pendant que d'autres étaient en train de faire ce genre de choses. Donc là, je dis chapeau bas l'artiste. Alors ça, c'était de l'innovation et totalement majeure et qui a changé le monde pour longtemps après. Donc moi, de mon côté, il fallait que je trouve une solution. Je n'allais pas continuer avec mes cartes perforées, avec Gérard, très bien. Et simplement, alors là, c'est encore le monde de l'underground qui a joué, à l'époque, il y avait un nouveau centre de recherche qui s'était créé, l'IRCAM, pour faire de la musique, des recherches musicales qui étaient sous le centre Pompidou. Donc le jour, ils faisaient leur truc. Donc Boulez, Pierre Boulez avait réussi à faire revenir en fait des États-Unis. Sa condition pour revenir des États-Unis Stanford, c'était de ramener du matériel en fait qui correspondait à ce qu'il avait là-bas, et aussi des gens. Et donc résultat, là-bas, il y avait tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de la micro-informatique encore, mais il y avait, c'était quoi, des PDP-10 ou des machins comme ça, qui nous permettaient en fait enfin de faire des choses plus marrante, et que ce n'est pas des cartes perforées, vous deviez attendre plusieurs heures, quand ce n'est pas plusieurs jours, pour qu'on vous rende votre programme en disant « il y a un bug », ce qui était assez ridicule. Et donc, là, j'ai trouvé des gens absolument fabuleux, j'ai emmené Gérard, bien sûr, on se retrouvait, c'était la nuit, hein. Nous on n'y allait que la nuit, parce que le jour c'était pour les gens qui... C'était... Mais la nuit, il y avait toute une faune assez marrante là-dedans. Et donc on a fait plein de trucs qui ont finalement, l'année d'après, m'ont emmené à San Francisco, où Gérard devait aller... j'avais pas fini ma thèse, mais Gérard m'a dit, bah, écoute, t'as pas fini ta thèse, c'est pas grave, tu viens quand même avec moi, et puis on va faire ça ensemble. Donc là, on a découvert plein de choses. Enfin, c'était un monde fabuleux. Et en particulier, on est tombé donc, chez Xerox. Ils avaient, donc, c'était la machine qui était l'ancêtre du Star, c'était l'Alto, en fait, à l'époque. Cette machine, en fait... Où, et, donc, c'était des gens qui étaient là pour travailler, qui avaient fait... cette nouvelle machine, c'est absolument fabuleux. Il y avait des fenêtres, il y avait des souris, il y avait plein de trucs. Et je vous dis, c'était complètement décalé, en fait. Et Steve a dû passer à peu près à la même époque, et je ne l'ai pas croisé à ce moment-là, a vu ça, on a fait ce qu'on a su après. Bon, essentiellement, ce que j'en retiens, c'est c'était fabuleux. Il y avait toute cette interface utilisateur. Bon, je n'étais pas encore prêt à en faire quelque chose. De toute façon, je ne pouvais pas. J'allais rentrer en France et des choses comme ça. Mais il y avait un truc marrant quand même, c'est que tous ces gens, ils passaient leur temps à jouer. Et en fait, quand on allait là-bas, la principale invention de ce machin-là, c'était les jeux en réseau. Il y avait un jeu de labyrinthe en réseau où les gens étaient en train d'essayer de trouver les copains et d'aller leur taper dessus. Et donc, quand vous voyez le truc, ces gens-là, bon, innovateurs, inventeurs, je ne sais pas, mais ils avaient un peu déjà tout dans les mains, simplement, ça n'est pas passé dans le grand public, ce n'est pas eux qui l'ont fait passer dans le grand public, mais honnêtement, tout était là, même les jeux vidéo qui aujourd'hui absorbent vos enfants toute la journée, toute la nuit et tout le bazar, tout y était. Donc il a fallu, lui, en 84, et vous le voyez là encore en posture zen, c'est son style, dans sa maison vide, complètement vide, cette maison était complètement vide, donc il avait sorti le Macintosh sur lequel on est déjà venu, donc encore une fois une innovation majeure, l'innovation majeure ici étant, alors on peut dire, c'est d'avoir amené l'Alto qu'il avait vu dans les mains de tout le monde, mais comme on a vu, c'est en fait beaucoup plus que ça, mais c'est surtout, tout d'un coup, l'interface utilisateur, les fenêtres, la souris, tout ça, c'était devenu quelque chose que auquel tout le monde a pu accéder. Donc je ne vais pas passer la vidéo 84. Et moi, qu'est-ce que je faisais en fait en 1984? En 1984, en fait, j'étais parti pour plusieurs mois dans l'océan Indien, parce que, comme je vous ai dit, si vous voulez être innovant, il faut... Parfois, vous lavez un peu l'esprit. Et donc, c'était un moyen, en fait, de récupérer... Enfin, ce n'était pas un moyen, ça s'est passé comme ça. Et ce qui fait qu'après, effectivement, j'ai trouvé des trucs. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est après avoir vidé l'esprit, on finit par trouver des trucs. Je voyageais. C'est une chose que j'ai toujours adorée dans la vie. Donc, je voyageais. Et quand je suis revenu, en fait, à l'INRIA, dans lequel je travaillais, donc essentiellement, moi, j'avais fini, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, j'avais fini un petit peu ce qui était en cours avant de partir. Et en fait, les collègues de l'INRIA et les amis de l'INRIA avaient reçu entre-temps deux Macintosh à l'INRIA et n'avaient pas trop su quoi en faire. Bon, c'était un beau jouet, hein, mais d'un autre côté, en tant que chercheur, ce n'était pas une machine de chercheur, c'était un jouet. Et donc, ils se sont dit, on va le mettre sur le bureau de Jean-Marie et ça va peut-être l'amuser. Et en fait, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Et donc, je me suis beaucoup amusé pendant, je ne sais pas, peut-être 6 mois. Donc, j'ai découvert un peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était beau, c'était magnifique. Et l'aspect des fontes. En fait, il ne faut pas oublier que le Macintosh, hein, une des raisons aussi pour lesquelles ça a pris cette ampleur, c'était aussi le desktop publishing. C'est-à-dire, ça venait pas avec, mais c'était le LaserWriter, en fait, qui était l'imprimante laser d'Adobe. qui permettait, en fait, tout ce que vous faisiez avec ces magnifiques fontes, etc., et tout, au lieu de programmer pour écrire ma thèse, comme je l'avais, enfin, quand je dis programmer pour écrire ma thèse, c'était vraiment programmer, c'était utiliser du texte là, pour dire tu mets ce caractère de cette façon-là, etc. Ah ben, pof, vous le faisiez directement sur l'écran, et puis pof, vous appuyez sur le bouton, ça sortait sur l'imprimante à côté. Ça, c'était, mais c'était monumental aussi comme changement. Et pour obtenir des résultats qui étaient assez, assez fabuleux. Donc essentiellement, je me suis amusé pendant un certain temps, et puis bon, on peut pas, j'étais chercheur, il fallait quand même pas exagérer. Et donc à un certain moment, il fallait revenir sur le travail. Et simplement, le travail, là, bah, c'est bien gentil, moi j'avais plus envie de programmer sur les trucs habituels, mais si j'essayais de programmer là-dessus, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, parce que si je programmais, moi, c'était, j'allais faire mes trucs, enfin, mon sujet de recherche, j'allais en faire quelque chose là-dessus. Simplement, ces gars-là, ils m'avaient multiplié le travail par 10. Parce que en m'obligeant à mettre une interface utilisateur, je ne pouvais pas faire autrement, puisque de toute façon, sinon ce ne serait pas beau et ce serait pas, ça ne participerait pas du jeu, pour mettre une interface utilisateur, il fallait travailler 10 fois plus. Il fallait écrire toute l'interface utilisateur avec du code et tout le bazar. Donc ça, c'était pas normal. Enfin, on n'allait pas me demander de faire tout ce travail. Donc essentiellement, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est de dire, de toute façon, ça n'est jamais qu'un travail de dessin, d'abord, de mettre en place toutes ces... Ça semble tout bête, hein, mais les innovations, généralement, ça semble tout bête après. C'est juste, on va dessiner les boutons, etc., on va leur mettre des systèmes de contraintes pour quand on déforme la fenêtre, ça reste à la bonne... Enfin, ça prenne la place qu'il faut. Et puis, donc, tout ça, c'est que du dessin. Et après, il y avait un point fondamental, quand même, qui était, maintenant, ce dessin, il faut pouvoir le lier au programme. C'est-à-dire le programme qui, lui, est mon travail personnel, ce que je cherche à faire, il va falloir pouvoir dire, quand j'appuie sur ce bouton, je déclenche telle fonction. Et donc là, il y avait tout mon background de l'époque sur les langages orientés objets, etc., qui m'a fait dire, ce qu'on va faire, c'est quand j'appuie sur tel bouton, j'envoie tel message à tel objet. Et la grosse différence entre tout ça, c'est que ça, c'était en fait dynamique, c'est-à-dire que dans l'interface utilisateur, quand on construit l'interface, on disait juste le nom de la fonction, le nom du message. D'accord ? Et après, c'était à l'interprétation que c'était fait. On pouvait changer le nom du message, ça changerait le truc. Il n'y avait pas à recompiler de programme, etc. Donc tout ça, c'est juste des petits trucs, mais des petits trucs qui finalement ont créé une espèce de révolution, parce que finalement, maintenant, c'était revenu, enfin au moins dans le langage que j'utilisais, sur le Macintosh, etc., c'était devenu un jeu. Faire l'interface utilisateur, c'était amusant, c'était facile. Et donc ça, l'air de rien, c'est ça qui a changé pour après la prolifération en fait de pouvoir faire tout ça. C'était un socle en fait, c'est un socle d'innovation qui a été mis en place. Et donc j'ai discuté avec l'INRIA parce que je disais il faut quand même en faire quelque chose. Là, on ne va pas laisser ça pour 2-3 chercheurs, enfin une vingtaine, c'était bien, mais donc essayons d'en faire quelque chose. Donc j'en ai fait quelque chose. Je suis parti de l'INRIA, j'ai fait ce qui s'est appelé par la suite Interface Builder. Et que j'ai commencé à faire commercialiser aux États-Unis jusqu'au jour où, de toute façon, je voulais aller le voir, je savais bien que j'avais un truc qui lui plairait. j'ai sorti le produit, etc. Et dans une conférence, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il venait de chez Next, il venait de partir chez Next, Steve, et il m'a dit viens nous voir chez Next, là, t'as un truc qui a l'air bien. Et donc je me suis retrouvé devant Steve, à peu près dans cette tenue-là, sans doute. à faire la démonstration de mon machin, j'étais vachement content. De toute façon, j'avais rien à vendre. J'étais content, j'étais fier de ce que j'avais fait. Il était là, et donc je lui ai montré mon truc. Et puis, il était assez agressif, comme il est parfois, je ne sais pas pourquoi. Et à la fin, il me dit, ouais, c'était bien. Allez, au revoir. Et donc, je suis parti. Mais simplement, quand je suis arrivé au parking, parce que j'étais avec les gens qui distribuaient mon truc aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit, tiens, toi, tu peux revenir, pas les autres. Et donc là, il y avait Steve qui m'attendait dans le canapé, et qui me dit, mais quand est-ce que tu viens travailler avec nous ? Donc là, comme d'habitude, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas, je suis fatigué, il faut que je prenne des vacances d'abord. C'est sûr, ça m'intéresserait de m'en venir. Je pense que là, il s'est dit, ce gars-là, il pense différent. Il m'a dit, OK, je te téléphonerai, dis-moi quand tu reviens, je te téléphonerai, enfin dans 15 jours. Je te téléphone dans 15 jours quand tu reviens, parce que le temps des vacances, c'est 15 jours. Je dis, mais non, Steve, c'est des vacances à l'européenne, donc je pars pour 3 mois, donc il m'appelle à telle date, etc. C'est ce qui s'est passé effectivement, donc on revenait du Laos, je crois, et donc si vous voulez, en retour de l'avion de Bangkok, à 3 heures du matin, comme d'habitude, comme d'habitude que j'ai vu après, il n'a jamais compris le décalage horaire. « Hi, ici Steve Jobs. » Et donc, le lendemain matin, il me dit « Prends l'avion demain matin et viens à San Francisco. » Ce que j'ai fait. Et puis, on a parlé, c'était bien, et puis c'était une aventure amusante. C'était embêtant parce que ma copine venait d'avoir un boulot à Paris, donc je lui ai dit ça va être compliqué, mais donc si tu me garantis que je peux aller venir comme je veux entre Paris et là, quel était l'autre truc qui m'importait ? Enfin, ce que je lui ai dit, c'est, je lui ai dit, écoute, je suis d'accord, je vais venir pour 6 mois pour vous aider. Et je suis resté 10 ans. Donc, et donc c'est là en fait qu'on a développé en fait donc la machine Next et surtout le software qui était par derrière, parce que la machine Next en fait c'était si vous voulez par rapport aux histoires d'innovation, enfin je dirais pas que c'était une invention, il y avait enfin dans le software, il y avait des choses qui étaient réellement de l'invention. La machine elle-même, le problème, c'est qu'on avait fait du software qui était vraiment extraordinaire, enfin bon, qui l'a montré après avec Mac OS X, ou même avant d'ailleurs avec certains trucs. Mais le problème, c'est que, en fait, on était... parce que tu disais que l'audience n'était pas la même, mais Steve, il voulait faire du grand public. D'accord, il a commencé en disant « c'est pour l'éducation ». Mais l'éducation, c'était un démarrage, et pour récupérer aussi des gens qui venaient du monde universitaire. Il a récupéré beaucoup de gens du monde universitaire qui étaient des gens qui ont fait quelque chose de vraiment bien, entre tout ce qui a été fait, Nextstep, qui était sur le départ en fait, de Interface Builder, puisque ça a obligé à changer tout le langage pour prendre Objective-C, quelque chose qui était dynamique et tout ce genre de choses. Mais ça a permis de... qu'est-ce que je voulais dire mais si vous voulez, le problème, c'est que ce software a été en avance sur son temps, et en étant en avance sur son temps, c'est ce que ça veut dire, ça demandait des machines un peu trop puissantes pour le faire tourner. Donc, résultat, elles étaient un peu trop coûteuses, et Next n'a jamais eu de succès commercial. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, parce que la force de Next, c'était Interface Builder. Enfin, c'était surtout ce truc où vous pouvez programmer très vite. Vous pouvez programmer très, très vite. Et là où ça a eu du succès, et donc c'est là où ça a été acheté, ça a été par les banquiers. Parce que les banquiers, ils avaient besoin de faire des programmes compliqués, mais avec une interface simple, pour que les traders, en fait, puissent gagner de l'argent très rapidement. Donc pour eux, ça a été une opportunité fantastique. Et donc on a vendu dans toutes les banques américaines, etc., pour aller faire du trading et pour arriver à gagner beaucoup plus d'argent. Je dois dire que ça ne m'intéressait pas beaucoup, cet aspect des choses. Mais l'autre truc, en fait, le grand succès en fait, de la machine Next à cette époque, ça a été le web. Parce que Tim Berners-Lee, en fait, au CERN, avait acheté des machines Next. Et il a toujours dit que ça n'aurait pas été possible en fait, de faire le web sans avoir ces machines. Donc on est allé le voir souvent, etc. C'était un truc très particulier, même si on ne voyait pas l'ampleur que ça allait prendre. Et là, ça a été, et c'est en ça que je dis, mais la machine, enfin, Next et Interface Builder, ces machins-là, ça a été une plateforme d'innovation. Parce que en dehors de ce qu'on a vu après avec le Mac, déjà là, le web, c'est une des innovations, alors là, méga de notre époque. Hein, c'est un truc fabuleux. Et lui, ça c'est la première version en fait, sur Next d'un browser web. Et lui, ce qu'il dit, c'est un exercice dans l'information globale, l'accès de l'information globale. Donc il avait la vision, ça ne se voyait pas encore, puisque ça ne marchait que sur Machine Next, à l'intérieur du CERN. Et donc ça a beaucoup... lui voyait son truc, il savait où il allait, c'est ce que c'est devenu finalement, mais ça a aussi pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu au passage faire, bon, d'abord que ce soit... que ça sorte des limites du CERN, ce qui a d'abord... ils ont dû lâcher les licences, etc., pour que ça puisse aller partout et que d'autres puissent commencer à construire. Donc, on a vu après Netscape, on a vu après Windows, etc., qui s'y sont mis. Et puis, progressivement, tout s'est mis en place et a commencé à aller très vite. Et puis, ça a pris une ampleur fantastique avec les moteurs de recherche, encore une fois. Et ça, j'aurai pas le temps là, mais c'est une autre histoire assez fabuleuse dans l'histoire des moteurs de recherche qui ont amené à Google... mais qui sont partis aussi avec quelqu'un qui était de notre entourage, c'était Louis Monnier avec Alta Vista. Et donc tout ça, c'est... Si vous voyez, encore une fois, que ce soit Wikipédia, l'Internet, moteur de recherche, tout ça, il n'y a pas de campagne de publicité fabuleuse par derrière. Hein. C'est un autre monde qui est en train de se mettre en place. Donc après la sortie de l'iMac, et je dis iMac macOS 10, parce que c'est vraiment à ce moment-là, c'est quand en 98, en fait, quand l'iMac est sorti, même en fait, il est sorti d'abord avec macOS 9. Et c'est en 2000 que macOS est venu avec, et c'est là que ça a pris cette ampleur formidable. Parce qu'encore une fois, c'était tellement facile de programmer là-dessus. C'est tellement... Et en plus, c'était du système solide. Ce n'était pas du Windows. C'était... Ah, mais je suis enregistré, là. C'était du Unix. C'était quelque chose, en plus, que tout le monde avait envie d'utiliser. Donc moi, à cette époque-là, en fait, j'étais parti d'Apple. Parce que... pourquoi j'étais parti d'Apple ? Non, j'étais parti de Next, en fait. J'étais parti de Next avant que ce soit racheté par Apple. Parce que ça ne m'intéressait pas trop de travailler pour les banquiers. Steve, il n'était plus vraiment là non plus à cette époque-là, il était plutôt chez Pixar. Donc ça me plaisait beaucoup d'aller voir les previews de tous les trucs de Pixar chez lui. Enfin, j'ai quand même vu 50 fois, parce qu'à chaque fois, c'était « Oh, t'as vu, ça a changé, là, il y a un petit nez au lieu d'avoir des enfants. » Mais je lui ai dit « Écoute, je vais partir, je n'ai plus rien à faire. » Moi, j'étais aussi pour le grand public, pas pour les banquiers. Et donc, comme d'habitude dans ces temps-là, je me retrouvais en voyage en Asie la plupart du temps. C'est vrai que j'ai une tendance particulière pour me retrouver dans ces pays-là. Et puis, je me suis retrouvé souvent au Japon. Et au Japon, c'était bizarre, en fait, ce qui se passait. Parce que, en fait, je me disais, mais c'est dangereux, en fait, ce qu'ils font ces gens. Ils traversent la rue, ils sont tout le temps en train de regarder leur téléphone. Ils vont se faire écraser. Et en fait, moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ces gens étaient en train de regarder leur GPS parce qu'ils étaient dans la rue à suivre ce que leur disait leur GPS. Ils avaient déjà tout un ensemble de services en place avec interface graphique, etc., qui était bien au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir. Et à ce moment-là, en Europe, on était quelque part au milieu, c'est-à-dire qu'on avait les téléphones Nokia qui étaient relativement... C'était des beaux engins, mais il y avait très peu de services dessus, très peu de software. Mais c'était des trucs qui étaient quand même jolis. Hein. Ils étaient arrivés quand même à des designs intéressants. Et aux États-Unis, eux, c'était la préhistoire. Parce qu'essentiellement, c'était eux les premiers qui avaient joué dans ce monde-là. Et donc, résultat, ils avaient mis en place des infrastructures à cette époque-là qui, de toute façon, ne leur permettaient pas d'aller plus loin. Donc, eux, ils étaient toujours avec des téléphones genre Gorbatchev. Là, donc, c'était un peu le truc étroit. Et ce qui était marrant, en plus, c'est de voir comment les acteurs de l'industrie jouaient. Les Américains, j'en sais rien, ils faisaient des téléphones, Motorola faisait ses téléphones sans grand intérêt. En Europe, il y avait une espèce d'alliance entre les opérateurs, donc les Orange ou compagnie, les opérateurs de téléphone, et les gens qui faisaient des téléphones, pour surtout pas faire des choses qui feraient que la possibilité de faire de l'argent avec ça leur échappe. Et donc, c'était possible, en fait, de mettre l'Internet sur le téléphone, et les Japonais l'ont bien montré. Simplement, ils avaient peur. Ils avaient très peur, parce que si on ouvre ce machin-là, ça va être terrible, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va faire de l'argent. Donc, on va vous donner un tout petit machin avec un tout petit tuyau qui s'appelait WAP à l'époque, ou un truc comme ça. D'accord, mais là, on est sûr que vous venez acheter sur notre boutique. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que c'était tellement inutilisable que personne n'achetait. C'était un désastre. Donc, ils avaient barricadé l'innovation. Non, on veut rien, on veut tout contrôler. Du côté des Japonais, c'était un peu différent, parce que eux, ça marchait à l'envers. En fait, c'est l'opérateur qui disait, voilà les services en fait que je veux que les gens utilisent et qui vont me rapporter de l'argent, d'accord. Et ils faisaient une commande aux constructeurs de téléphones, donc japonais, Panasonic et compagnie. Donc c'est Docomo qui commandait à Panasonic et qui leur faisait des téléphones juste pour leur truc et qui n'ont jamais été à l'étranger ou quoi que ce soit. Et quand je vu ça, je me dis, c'est complètement aberrant. Ce machin, il faut arriver à l'ouvrir. Et de toute façon, la clé là-dedans, c'est le software. D'accord, le hardware, ce n'est pas difficile à faire. Et déjà, au Japon, il fallait voir ce qu'ils faisaient. Nokia faisait des très beaux trucs. Hardware, ce n'est pas difficile à faire. Simplement, il n'y a aucun de ces gens qui savent maîtriser le software. Et s'ils savaient maîtriser le software, s'il y avait des vrais operating systems sur ce machin-là, des vrais systèmes d'exploitation, à partir de ce moment-là, pourraient se développer un marché d'applications où non seulement eux, déjà, au départ, font des applications intéressantes, par exemple GPS, comme avait fait Docomo. Mais en plus, avec les développeurs, on ne sait pas du tout la direction que ça va prendre. Et là, ça va être complètement florissant. Donc je voyais ça en me disant, mais dis donc, il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Et, dans cette foulée, il y a Steve qui passe à Paris et on parle ensemble en marchant sur le boulevard Saint-Germain. Il aime toujours parler en marchant et puis parler avec des gens, même justement qui sont plus chez Apple, etc. C'est encore plus intéressant avec les gens qui ont la confiance, qui sont ailleurs, parce qu'il va leur apporter quelque chose qui vient du monde extérieur, qui n'est pas dans un truc contraint comme ou des gens qui travaillent tout le temps sur le même truc. Et donc, je lui dis, il me demande, qu'est-ce que tu vois venir d'intéressant ? Je lui dis, tu n'auras pas le choix. C'est juste une question de temps. C'est quand est-ce que tu vas devoir faire un téléphone ? Donc, lui, il me dit, attends, un téléphone ? Mais pourquoi j'irais faire un téléphone ? Donc, lui, c'était un Américain. Donc, si tu veux un téléphone, c'était un téléphone avec des touches, là, et le machin. De toute façon, ils avaient tous des touches. Et puis je lui explique un petit peu tout ce que j'explique. Et, peut-être. T'as peut-être raison, j'en sais rien. On appellerait ça un iPhone, d'ailleurs. Mais pourquoi tu ne reviens pas et puis qu'on n'étudie pas la question ? Et donc, je suis revenu et on a commencé à étudier la question. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'iPod n'était pas encore sorti. Hein. L'iPod est sorti à la fin de cette année-là. Donc, l'iPod innovation majeure et qui était remarqué déjà dans ce genre de direction. Et surtout, il faut voir qu'à l'époque, l'iPod était conçu comme marché avec le Mac. D'accord ? Là, le Mac était le digital hub, c'était le centre, et autour, on connectait des appareils photo, des caméras, des iPods. Et donc, l'idée pour commencer, pour étudier ce monde-là, c'est voir comment on pouvait connecter un téléphone. Ce qui m'a donné l'occasion d'aller travailler avec Nokia, d'aller voir Nokia, Sony Ericsson et tous ces gens-là. Et quand j'ai vu Nokia, je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont morts. Ils sont morts. Ça a pris combien de temps après 5 ans, peut-être, à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce que l'iPhone sorte. Mais ces gens-là faisaient du hardware. Quand il s'agissait du software, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils faisaient simplement des spécifications, ça doit faire ça. Puis ils travaillaient comme des banquiers. Ils envoyaient ça à Bangalore, en Inde. Ils leur disaient, vous nous faites ce machin-là. Et les gens leur renvoyaient le bout de code. Ils n'avaient même pas le code source. C'était complètement incroyable. Et voilà, ils n'avaient aucune notion de ce que pouvait être le software qui allait être la révolution qui arrivait. Et résultat, l'iPhone est arrivé, Android est arrivé, et ils ont complètement disparu, parce que là, c'est ce qui a pris complètement le devant, en fait. Et comme je vous disais, donc le moment, enfin, c'est marrant parce qu'on s'imagine des tas de choses, qu'est-ce qui a été le déclic, etc. Mais ça a pris très longtemps à Steve, en fait, à se décider à faire un téléphone, presque autant qu'après le réaliser, hein, plus même, plus. Mais le déclic, ça a vraiment été cette histoire de clavier. C'est de regarder l'objet, de se dire, mais qu'est-ce que je peux en faire, etc. Lui, il voulait faire un téléphone, de toute façon. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Steve ne voulait pas qu'on s'occupe du problème des apps. D'accord ? Il a dit, non, on fera les apps, on ne va pas l'ouvrir. Ce n'est pas le but pour le moment. D'abord, on fait un téléphone. L'histoire des cartes et du GPS, il m'a toujours dit, mais Jean-Marie, tu délires complètement. D'accord ? Simplement, il l'a quand même reconnu après. Il a dit, il y a quand même quelqu'un qui m'avait dit. Et puis, effectivement, c'était la réalité. Et le truc qu'il a décidé, c'était il n'y aura pas de clavier. Et ça, c'était dû aussi au fait qu'on avait dans les labos chez Apple la technologie touch. On l'avait depuis des années avec le multi-touch, etc., toutes les patentes et tout le bazar. Mais simplement, il n'avait jamais voulu que ce soit utilisé parce qu'il n'en voyait pas d'application qui serait une rupture. Et là, tout d'un coup, en fait, il a dit allez-y. Et puis c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de faire un clavier software, etc. C'est un travail de statistique. Enfin, c'est terrible parce que vous croyez que votre doigt il va sur la touche, pas du tout. Il va à côté. Donc après, faut voir où est-ce que ça va bien, etc. Enfin, c'est toute une affaire. Et donc ça a été un désespoir dans la société. Enfin, on se lance dans un truc, ça va jamais aboutir. On n'a jamais vu un téléphone sans clavier. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et puis il avait raison. Il avait raison et il avait vraiment l'ensemble de la compagnie contre lui. C'est quand même assez marrant. Et donc, l'iPhone, après, est sorti en 2007. Je vois que le temps avance quand même. Évidemment, tous les gens qui faisaient du software savaient aussi la révolution va venir par les apps. D'autant plus qu'on avait iTunes. D'accord ? Avec l'iPod était venue toute la boutique qui permettait d'acheter des chansons, etc. Donc, toute l'infrastructure pour faire... Bon, faire les apps, ça, c'est facile, on sait faire. Enfin, et mettre, faire des systèmes de développement pour faire des apps, on savait faire. Et puis, en plus, déjà, il y avait cette infrastructure pour aller les vendre d'une façon complètement software sur le téléphone et tout le bazar. Tout ça, ça existait déjà. Et donc, c'est pour ça que ça a pas mis un an avant que les apps apparaissent et qu'on voit la révolution que ça a été après, puisque finalement, c'est les apps qui font toute la différence. Donc ça, bon, je pourrais parler beaucoup plus longtemps sur l'iPhone, mais il faut que j'avance. Donc, on va continuer. Et donc, voir un petit peu aussi. Et maintenant, quelles sont les innovations qui arrivent? Et de mon point de vue, de toute façon, les innovations qui arrivent sont de plus en plus software, mais ont des implications qui sont de plus en plus fortes sur la société et qui... il faut s'attendre à des trucs mais vraiment puissants. Et personnellement, je trouve que Uber, c'est un nom de marque, mais c'est eux qui ont commencé. Et en fait, c'était à Paris. Hein. Ils ont fait ça parce qu'ils sont venus à Paris et ils se sont rendus compte d'un problème social, enfin d'un problème de vie, mais invraisemblable. On vient à Paris, c'est impossible de trouver un taxi, les gens sont vachement désagréables, enfin les chauffeurs de taxi sont vachement désagréables, je sais que je suis enregistré, mais c'était la réalité. Ils ne veulent pas vous emmener où vous allez, et en plus, ils vous font prendre des chemins invraisemblables. Donc, ils étaient venus pour la conférence Le Web, je ne sais plus quelle année, c'était marqué là, en 2008. D'accord, conférence Le Web, ils s'aperçoivent de ce désastre. Ils se disent, on va faire quelque chose. Ils ont créé Uber. Aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous n'avez même pas besoin de sortir, vous sortez votre téléphone, vous lancez Uber, vous voyez toutes les voitures qui sont autour de vous, ça a un aspect complètement magique, surtout la première fois, vous voyez toutes les voitures qui sont autour de vous, vous dites où vous voulez aller, donc ça, dans votre carnet d'adresse, hein, vous n'avez même pas à taper la plupart du temps. Vous appuyez sur le bouton, et puis là, vous voyez la voiture qui vient jusqu'à vous, vous voyez un gars super sympa, d'accord, qui vous ouvre la porte, qui vous offre des bonbons. Ça semble ridicule, mais ça change tout. Je ne prenais plus jamais le taxi. Ces gens-là ne voulaient pas m'emmener chez moi. Jamais. J'habite en banlieue, ils ne voulaient pas m'emmener chez moi. D'accord ? Et si vous voulez, il y a eu là une vraie révolution. Et vous le sentez quand... Enfin, franchement, si vous n'avez pas essayé, essayez. C'est un truc... Waouh, c'est fort. C'est très fort. Et côté société, il faut voir que ce que ça a... Bon, ça ne durera qu'un temps. Mais ça a eu un aspect, en fait, parce que pourquoi les taxis étaient si désagréables? C'est parce qu'ils n'en avaient rien à fiche, ils ne vous reverraient jamais. Donc, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et ils ne vous reverraient jamais. Vous n'étiez pas des clients, vous étiez juste des gens à qui, bon, je prends l'argent et je ne les reverrai jamais. Le taxi à côté de chez vous, là, c'est différent. Lui, il a des vrais clients. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Est arrivé avec Uber un truc avec un système de notes. D'accord? Et si vous voulez, ça a ouvert, en fait, puisque c'est en libre service pour être chauffeur, enfin, presque, pour être chauffeur comme pour être client. Mais donc, il y a des tas de gens qui ne pouvaient pas trouver de boulot, qui ont trouvé une opportunité pour avoir un boulot. Et simplement, ils se sont aperçus très vite, attention, c'est un système qui est auto-régulé. C'est-à-dire que si je fais le con, je vais avoir une mauvaise note. Et si j'ai une mauvaise note, bah, l'algorithme, il va immédiatement ne plus me choisir très souvent. Donc, j'aurai plus de courses. Donc, résultat, vous vous trouvez avec des gens aujourd'hui où la notion de client est revenue. Et eux, qui la plupart du temps viennent de banlieues défavorisées, etc., se retrouvent avec un truc où ils ont dû apprendre les codes. Et ayant appris les codes, ils le font extrêmement bien et ils en sont vachement contents. Et ils sont remis dans le circuit social avec un vrai boulot. Et ça, c'est vachement fort. Mais ça ne s'arrêtera pas là, Uber. Parce que la suite, et malheureusement, en fait, pour cet aspect social, c'est que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Uber est un des plus actifs dans le problème des voitures autonomes. D'accord ? Et un jour, les voitures n'auront plus besoin de conducteurs. Et ce n'est pas si loin que ça. D'accord ? Ce sera des voitures électriques sans conducteurs. Et Uber est un des premiers à essayer de faire ça, avec les Chinois d'ailleurs, qui aussi, pour leur équivalent d'Uber, sont les grands drivers derrière ce genre de choses. Or, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est du fait qu'il n'y aura plus besoin de chauffeurs. Bon, ça, c'est un gros problème social, mais les prix vont baisser d'une façon énorme. Et ce qui va se passer ce jour-là, enfin ça c'est une prédiction, ce jour-là, ce sera la fin de la voiture individuelle. Parce que pourquoi est-ce que j'aurai une voiture individuelle si quand je dis je veux la voiture, elle arrive, je monte dedans, elle m'emmène où je veux, et puis je la laisse après. J'ai pas à faire de maintenance, j'ai rien du tout. La maintenance est un problème terrible sur les voitures électriques qui arrivent, parce que, enfin, c'est pas un problème de maintenance, c'est des voitures qui sont assez sûres, mais c'est... un problème de mode, ça va devenir comme les téléphones. Enfin, c'est plus que de mode, c'est même de la capacité des batteries qui s'améliore tous les ans de temps. Et donc, votre voiture, au bout d'un an, de toute façon, déjà, elle est vieille et elle ne vaut plus le coup. D'accord ? Donc, vous n'allez pas pouvoir en racheter comme vous rachetez des téléphones. Donc, c'est pas... C'est, bon, au début, ça, vous allez les garder un peu, mais petit à petit, et vous verrez, bah, attends, je n'ai pas besoin d'en acheter une, puisque de toute façon, il y en a une qui peut venir tout de suite. Et bien, dans ces cas-là, ce sera la fin de la voiture individuelle. Et alors là, comme innovation majeure, comme révolution dans la société, ça va être quelque chose. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je suis un petit peu en retard.
Merci.